Comment est-ce qu'on pourrait faire pour encourager nos frères et sœurs qui sont dans ce qui est dit l'Église persécutée? Il y a plusieurs passages qui ont été suggérés donc mercredi soir pendant la réunion, donc qu'on a eu à Dieppe. Et donc moi je vais lire quelques passages, mais j'aimerais que vous réfléchissiez à certains passages. Parce que quand on a été donc devant l'ambassade algérienne jeudi, il y a 8 jours, donc c'était pour encourager toutes les personnes qui regardaient par live streaming, donc cette rencontre qui avait lieu devant l'ambassade algérienne, ici à Paris, dans laquelle il y avait des centaines de personnes qui chantaient, qui priaient, qui intercédaient, qui exhortaient, etc. Et donc plusieurs, donc on a pris la parole, on a lu certains versets, on a essayé d'encourager l'Église, mais bien sûr on était encouragé aussi par leurs gestes et par leurs prières pour l'Église libre, ce qu'ils appellent l'Église libre. Et alors bon, vu que ce week-end il y a des milliers de personnes qui sont rassemblées en région parisienne pour pouvoir prier davantage pour l'Église persécutée, pouvoir donc avoir un cœur pour nos frères et sœurs qui souffrent à cause de la foi. Donc je vous ai dit que ma sœur, un jour, elle est allée au Népal. Elle a rencontré 300 femmes dont les maris avaient été tués au fil des années, des pasteurs qui avaient été tués au fil des années. Et ma sœur est allée donc les rencontrer, être avec elle pendant 2, 3, 4 jours. Donc plusieurs femmes sont allées de partout au Mexique, aux États-Unis. Ils ont amené des cadeaux. Ils voulaient vraiment, voilà, donc les faire sentir qu'elles avaient de la valeur aux yeux de Dieu. Mais c'était une expérience qui a complètement bouleversé ma sœur. Hein. On rencontrait toutes ces femmes qui avaient perdu leur mari. Donc on sait qu'en Colombie, il y a eu beaucoup de pasteurs qui ont été mis à mort. Récemment au Mexique, un pasteur très connu a été mis à mort par les cartels de drogue. Donc bien sûr, nous savons qu'au fur et à mesure que nous continuons à grandir dans le Seigneur et à vivre la foi pleinement, comme il est décrit en Matthieu chapitre 5, vous connaissez les béatitudes. Donc heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui ont un cœur pur, heureux les affligés, ils seront consolés, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux ceux qui désirent Dieu, mais heureux aussi serez-vous lorsque vous serez persécutés et outragés, et lorsqu'on dira toutes sortes de choses faussement à votre égard. Et le frère nous disait, donc ce frère qui devait être là ce matin, donc il m'a dit, mais il y a des personnes qui ont perdu leur travail, on ne leur donne pas du travail parce qu'ils les identifient avec l'église qui a été fermée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire un père qui a 3 enfants avec sa femme et tout d'un coup aucun ne peut regagner son travail, donc ils sont harcelés, etc. Ce n'est pas seulement les églises fermées, mais il y a vraiment une opprobre, il y a vraiment donc il y a une croix qu'ils portent. Ce n'est pas une croix de souffrance, c'est la croix de Christ. Comme je disais la semaine dernière, donc je me glorifierai dans la croix de Jésus-Christ, de la croix de Jésus-Christ. Et alors nos frères et sœurs dans les églises persécutées, dans les villes, dans les pays où l'église est persécutée, ils vivent véritablement, ils portent la croix de Christ. Ils portent la croix de Christ. Ce n'est pas qu'ils se lamentent de la souffrance, ce n'est pas qu'ils se lamentent même des morts, ce n'est pas qu'ils se lamentent donc des pénuries, etc. Ils portent la croix de Christ parce que ce qu'ils souffrent, c'est par rapport à l'identification avec la croix. Et comme je disais donc dimanche dernier, on est tous des nés crucifiés. Du moment qu'on est né de nouveau, on est crucifié avec Christ. Alléluia. On est crucifié avec Christ. Et vous savez, Paul disait en acte, il disait, je ne fais de ma vie aucun cas. Aucun cas. Pourvu que j'arrive avec joie à la présence de Dieu, je ne fais de ma vie aucun cas. Alors, quelques passages donc que j'aimerais donc lire avec vous. Et imaginez que vous auriez devant vous une vingtaine de personnes qui ne seraient pas là pour demander de la pitié en disant, voilà, on a fermé notre église, on est en souffrance, etc. Mais comment est-ce qu'on ferait pour les encourager et leur donner vraiment donc un espoir par rapport à l'avenir? Vous savez, quelqu'un avait suggéré le psaume 91. Le psaume 91, donc celui qui habite à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirais, donc le Seigneur, tu es ma forteresse, etc. Et ensuite, il dit, donc 10 000 tomberont à ton côté, 1 000 à tes côtés, mais toi, tu ne seras pas atteint, etc. Et alors, quelqu'un disait, mais quand on lit le psaume 91, ouvrez votre Bible au psaume 91 et vous verrez, ce n'est pas si vrai que ça. Où a été la protection de Dieu? Dieu est souverain et il sait exactement pourquoi Donc, il a permis des églises fermées, il a permis des souffrances, il a permis donc des malheurs qui sont arrivés, il a permis donc des personnes qui sont mortes, et ça depuis la Bible, en Hébreux chapitre 11. Mais au verset 14, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc, on commence avec celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu dis à l'Éternel, donc mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et ensuite, donc bien sûr, passe toutes ces promesses. Voilà, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Alors on pourrait se dire, mais et le frère en Inde qui était avec ses deux enfants, donc en Inde il y a plusieurs années, il y a un frère qui est allé dans une ville pour montrer un film chrétien, et le soir, donc lui et ses enfants ont dormi dans leur camion, et leur camionnette a été brûlée par les personnes. Donc et bien sûr, donc tu ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Qu'est-ce qui a fait la femme de ses frères, la maman de ses deux garçons qui ont été brûlés? Elle est en train de servir le Seigneur, en train de gagner des âmes pour Christ. Parce que Dieu ne change pas dans sa parole. Dieu ne change pas dans sa parole. Et ce n'est pas parce que on a l'impression qu'il y a des personnes, voilà, qui, le malheur arrive, les fléaux approchent leur tente, etc. Est-ce que Dieu n'a pas ordonné à ses anges de regarder dans toutes ses voies? Dieu sait ce qu'il permet, Dieu sait ce qu'il fait. Je sais ce qu'il a permis dans la vie de Job aussi. Mais le résultat, c'est, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Et donc, mardi soir, on était dans la lune de prière et on priait parce que on se disait, mais si des choses comme cela arrivaient chez nous, est-ce qu'on serait prêt? Est-ce qu'on serait prêt à le vivre? Est-ce qu'on serait prêt à vivre la persécution? Est-ce qu'on serait prêt, nous, à avoir un local fermé, nos instruments donc dérobés, donc les lieux de rencontre, les lieux pour les enfants, donc disparaître, etc. Donc même il y a ceux qui se sont dit, mais ça va se démultiplier parce qu'on va se rencontrer dans les maisons. Mais là, ils attaquent les maisons dans lesquelles les chrétiens se rassemblent. Où est-ce qu'ils vont aller? Où est-ce qu'ils vont aller se cacher? Ils vont pas se cacher de la présence de Dieu, ils pourront pas se cacher de la présence de Dieu, Dieu sera toujours là. Mais c'est sûr et certain qu'il faut, il faut être conscient de la souveraineté de Dieu et de ce que Dieu agit et de ce que Dieu permet. L'Église est mise à l'épreuve. L'Église est mise à l'épreuve. L'Église est en train de subir un temps de purification. Et cela va arriver partout. N'ayez pas peur, mais ça va arriver partout. Pourquoi? Parce que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Hébreux chapitre 13, 5 à 6, deux versets qui sont très encourageants. Bon, très encourageants. Après Hébreux chapitre 11, quand vous lisez au verset 32, lisez premièrement donc Hébreux chapitre 11, 32, et que dirais-je encore quand le temps me manquerait pour parler de Gédéon, des hommes de foi, de Barak, de Samson, Jepté, David, Samuel, les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Alors il y avait ceux qui ont échappé aux tranchants de l'épée, mais il y avait ceux qui n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. C'est notre monde à nous n'est pas digne des personnes comme cela. N'est pas digne donc. Pourquoi? Parce que ces personnes, ils sont allés jusqu'au bout. Et pourtant, ils ne sont pas allés jusqu'au sang, comme Jésus est allé jusqu'à déverser sa dernière goutte de sang. C'est complètement différent. Mais alors, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant bu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Quelle était la perfection? C'était la venue de Jésus. Donc eux, par la foi, ils vivaient vers la venue de Jésus. Nous vivons par la foi par rapport à ce que Jésus a fait dans le passé. Et alors, c'est là où nous allons donc tous vers la perfection. Ensuite, au chapitre 13 et le verset 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Et la réponse, rien. Et ensuite, au verset 7, il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Il y a des livres, des témoignages, des biographies, des hommes et des femmes qui sont allés jusqu'à la mort, qui ont payé de leur vie pour la cause de Christ. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. C'est nos conducteurs, c'est nos mentors, hein, par des livres, par des témoignages. Donc, dans les années 1700, les Huguenots. Lisez les livres sur les Huguenots. Lisez les livres, donc, sur ces personnes qui étaient méprisées par tous, en pleine inquisition. Et il y avait vraiment, donc, une lutte acharnée contre les chrétiens. Les Huguenots. Les Huguenots, donc, les témoins des historiens français, ils disent, ils allaient, donc, pour être pendus avec le sourire sur leurs lèvres et en parlant dans de nouvelles langues. Ils allaient donc vers leur mort, vers la décapitation, avec un sourire et en parlant en langue. Ça, c'est des témoins, des historiens français donc, qui écrivent de cette époque. Mais lisez donc ces biographies. Lisez donc la vie qui ont mené nos conducteurs, qui nous ont annoncé la parole par leur témoignage et considérez qu'il a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Comment est-ce qu'on pourrait encourager donc quelqu'un qui est triste parce que leur monde a été bouleversé, parce que leur église a été bouleversée, parce que donc l'organisation qu'ils avaient, donc tout ce monde dans lequel ils se voyaient pour prier ensemble, pour chanter ensemble, pour rire ensemble, pour manger ensemble. Et alors, qu'est-ce qu'on leur dirait? Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, disait l'apôtre Paul. Duquel tire tout son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa grâce, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Rappelez-vous ce qu'il est dit en Corinthiens, lorsque notre homme extérieur se détériore, notre homme intérieur est renouvelé. Alléluia. Donc, ici, il dit, je veux que vous soyez puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre en Jude, c'est le livre juste avant l'Apocalypse. Au verset 17, Jude, verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Ces choses vont exister. Les prophéties vont s'accomplir. L'amour de plusieurs va se refroidir, la Bible dit, à cause de l'iniquité, à cause de la banalisation du péché. L'amour de plusieurs va se refroidir. Récemment, donc, j'ai su de quelqu'un qui a quitté son conjoint à cause donc d'une vie dissoute et est tombé donc dans l'homosexualité. Et j'ai essayé de contacter l'autre conjoint que je connais très bien. Ils ne me répondent pas. Ils ne veulent pas parler. Et tout d'un coup, cette semaine, l'autre conjoint dit « Ah non, mais c'est psychologique. Donc, ce n'est pas un problème. » Mais qu'est-ce que Dieu a à dire là-dessus? Qu'est-ce que leurs trois enfants auront à dire là-dessus? Et j'étais vraiment attristé, mais là, je comprends pourquoi il ne me répond pas à mes appels. Parce qu'il veut essayer de comprendre. Il ne peut pas imaginer que son conjoint, donc, qui était ferme dans la foi, soit en train de partir en enfer. Et il ne peut pas l'admettre. Donc c'est psychologique. Une fois que psychologiquement, Donc, il rentrera dans l'ordre. Là, tout va être bien. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. La parole de Dieu, on ne peut pas l'altérer. On ne peut pas la changer. On ne peut pas, donc, diluer la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est claire, comme elle est. Mais ici, il dit alors, bon, vous savez, donc, dans les derniers temps, il y aura des moqueurs, etc. Pour vous, verset 20, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Aura celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Le psaume 17, Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant toi, ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers toi ton oreille. Écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. La protection de Dieu. Vous savez, ce n'est pas facile de garder un cœur sans amertume, de garder un cœur sans rancune, de garder un cœur, donc il dirait, mais c'est juste que je suis dans une sainte colère. Non. Seigneur, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Si tu sondes mon cœur, tu le visites la nuit, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. De l'abondance du bouche, la bouche s'exprime, la bouche parle. Et alors quand on a la parole de Dieu en nous, quand on a donc cette certitude, les promesses de Dieu qui sont en nous, le diable essaierait de venir pour décourager, pour complètement donc faire penser donc aux pasteurs qui ont été donc battus, les frères et sœurs qui sont en prison, etc. Donc on prie pour leur liberté, on prie que Dieu donc exauce nos prières. Et comme pour Pierre, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. Quand il était en prison, il a été libéré par les prières de l'Église. Et c'est pour cela que l'Église et le ministère donc envers l'Église persécutée insiste à nous demander de prier, d'intercéder, de vraiment nous sentir donc participants de ce qu'ils vivent. Ésaïe 41, à partir du verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphant. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne le trouveras pas. Ceux qui te suscitent tes querelles, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Et le verset 20, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses et que le Saint d'Israël en est l'auteur. Le psaume 107 et le verset 13. Donc c'est des passages donc qui pourraient être d'une consolation, d'un encouragement à ceux qui vivraient des temps de persécution. Le psaume 107 et verset 13. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain. Ça, c'est les prisons, hein. Il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et touchait aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Vous vous rappelez en Daniel l'histoire des trois jeunes hommes, Meshach, Shadrach et Abednego. C'était la persécution. C'était une opposition claire et nette contre ceux qui se faisaient remarquer, car l'Esprit de Dieu était sur eux. Et à un moment donné, par la jalousie de ce que ces hommes vivaient, alors, il y a quelqu'un qui va voir le roi et qui dit, mais ça serait bien que tu construises donc une grande statue, voilà, pour que tout le monde puisse t'adorer. Ça, c'est la flatterie, hein. Il faut que tout le monde t'adore. Il faut que tout le monde puisse te faire leurs hommages. Et donc, il a plu au roi, donc, cette idée. Et il a dit, quiconque, verset 7 de Daniel chapitre 3, ne se prosternera pas et n'adorera pas, sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Alors, bien sûr, le grand jour du rassemblement arrive et tout le monde doit se prosterner devant la statue. Mais ceux qui voulaient la mort, qui voulaient la destruction de ces chrétiens, ils ne faisaient pas appeler chrétiens à l'époque, mais c'était des chrétiens, c'était des hommes de Dieu. Alors ils ont regardé, ils ont vu que Shadrach, Meshach et Abednego n'adoraient point la statue d'or qu'il avait été levée. Verset 13, Daniel chapitre 3. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent emmenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Vous allez avoir une autre chance. Et au moment où vous attendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du salterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Quelle hardiesse, hein? Quel courage! Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, sûr et certain, au roi. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « Mais n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Il répondit au roi, « Mais certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha à l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'avaient point été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Quelle histoire! Quelle imagination! Quelle imagination! Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Hein. C'est résolu! C'est résolu! Nous savons que Dieu nous délivrera de ta main. Et Dieu les a délivrés. Hébreux chapitre 10 et verset 34. Nous allons prier ensemble dans quelques instants. Hébreux chapitre 10 et verset 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et entre-temps, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Vous n'êtes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Comment encourager des personnes qui voient les vraies choses arriver, qui voient la réalité de ce qui a été prophétisé? Jésus l'a bien dit en Matthieu, en Luc, dans les prophéties. Le jour viendra quand ils vont penser que c'est un honneur de vous livrer, de vous trahir. Mais Saul, il pensait qu'il était en train d'honorer son Dieu en persécutant les chrétiens. Pour lui, il pensait qu'il faisait bien. Et ça a coûté la vie à Étienne. Il était présent lorsqu'Étienne a été mis à mort. Mis à mort par des pierres, imaginez, hein. La torture, la douleur, les coups, mis à mort. Et Saul était là. Il tenait les vêtements, la tunique. Mais Dieu a un plan pour Saul. Et cet homme qui pensait honorer Dieu en faisant du mal au nouveau disciple de Jésus est transformé à devenir un apôtre, un instrument entre les mains de Dieu. Il y a une histoire dans 1956, parmi les Indiens Hauka, il y avait cinq missionnaires, et leurs femmes et leurs enfants qui habitaient en pleine bush, en pleine jungle dans l'Amazonie. Ils ont commencé à faire amitié avec des personnes. Alors ils avaient une petite avionnette, et donc parfois ils jetaient des cadeaux, d'une manière ou d'une autre, c'était pas un hélicoptère, mais bon, en passant, donc ils laissaient tomber des cadeaux. Et petit à petit, donc, ils ont compris qu'il y avait donc une interaction avec les personnes. Et le jour est venu quand ils ont atterri, ils ont eu un contact avec les personnes, et ils semblent être positifs. Et donc, ils sont retournés à la maison pour annoncer à leurs femmes. Il semble qu'on a rencontré donc des personnes qui sont ouvertes au message de l'Évangile. Sa mémoire est bonne, j'espère ne pas me tromper dans l'histoire. Mais ils retournent le lendemain et ils atterrissent sur une barre de sable. Et les heures passent et les femmes n'ont plus de nouvelles par le walkie-talkie et par les différents moyens de communication en 56, il y a 63 ans. Et les jours passent, les heures passent, pas de nouvelles. Et je crois que c'était 3-4 jours après, ils commencent à faire un vol de reconnaissance. Et ils voient l'avionnette qui est complètement détruite, peut-être brûlée, je ne sais pas. Mais ils voient des corps transpercés par des épées. Et c'est 5 hommes. Ils ont donné leur vie pour le salut de ce peuple indigène. Vous savez qui a été le pasteur principal de la plus grande mission qui a commencé lorsque deux des femmes sont retournées après avoir enterré leur mari, sont retournées. Elles ont continué à évangéliser. Elles ont continué à tout donner. Et c'est l'homme qui avait commandé que quand les Américains sortaient de l'avion, on les transperçait par les épées. C'est lui qui a été le pasteur principal. Pendant des années, une mission extraordinaire. Et ça a touché des milliers, des milliers, des milliers de personnes. Mais il a fallu que des hommes paient de leur vie et que le sang soit déversé et que le sang soit semé et que les grains de blé tombent par terre et soient écrasés afin qu'il y ait du fruit. C'est Wilson Taylor qui, en Chine, avant la retraite du communisme, dans les années 1915, 1912 et bien avant, il a dû enterrer un premier fils, un deuxième enfant, sa femme, parce qu'ils ont été touchés par diverses maladies. Et chaque fois, c'est lui qui creusait la tombe, c'est lui qui jetait, donc qui créait une espèce de cercueil, qui mettait donc ses bien-aimés donc sous terre et qui jetait la terre dessus et tout le monde le regardait et il se moquait de lui, etc. Et c'était au bout de quatre de ces êtres chers que le premier chinois s'est converti dans cette région. Lisez ces histoires de ces hommes et des femmes qui ont été des vrais pionniers. Les vrais pionniers. Bon, moi je sais que mon père au Mexique, il est rentré dans des quartiers dans lesquels il n'y avait jamais eu de pasteur, jamais eu de missionnaire, etc. Donc des personnes qui venaient et qui disaient, mais on attend depuis 20 ans, depuis 30 ans, que quelqu'un vienne nous parler, parce que on a eu une vision qu'il y avait un Jésus mort sur la croix, mais nous, on ne sait pas ce que c'est. Et 20 ans après, il y a un missionnaire qui arrive. Et ça, c'était dans les années 50, 60. Et donc, des histoires vraiment donc incroyables de comment Dieu s'est servi des pionniers. Mais chacun de nous, on est un grain de blé. Et Dieu cherchera comment produire du fruit dans notre vie. Mais pour beaucoup de nos frères et sœurs, pour porter du fruit, il faut que ce grain de blé tombe par terre et qu'il soit écrasé. On va lire Matthieu chapitre 5. Et ensuite, nous allons faire des petits groupes de 3, 5, 4 personnes pour prier ensemble pour nos frères et sœurs dans les églises persécutées. Il y a des milliers de gens qui meurent par an. On n'entend pas parler sur les médias. On n'entend pas parler donc des églises fermées en Algérie, à BFM TV, sur France Info, etc. Non, on n'entend pas parler de ces choses. Mais le cœur de Dieu est peiné. Le cœur de Dieu est attristé. Et son cœur regarde. Et son cœur voit. Mais il voit aussi notre attitude de cœur en disant, Seigneur, nous ferons tout pour proclamer, pour être le sel de la terre, pour être la lumière du monde. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui dépendent de Dieu. Heureux ceux qui sont constamment en train de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. On l'a chanté ce matin. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Heureux les pauvres en esprit. On est toujours pauvres en esprit, en disant notre besoin de Dieu. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils ont la terre, c'est les doux, humbles de cœur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Pierre est mort, crucifié, mais à l'envers. Il ne voulait pas être crucifié à l'exemple de Christ. Jacques est mort. Il a perdu sa tête, décapité. On sait que Jean-Baptiste a été décapité. Donc, la persécution existe depuis toujours et existera toujours. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, merci, Seigneur, pour ces passages bibliques qui nous encourageraient, Seigneur, si le jour viendrait, quand on serait jeté en prison, quand on nous enlèverait nos Bibles. On pourrait se rappeler des brins, Seigneur, de ces versets, de ces passages. On pourrait se dire, mais les promesses de Dieu étaient là et c'est pour cela qu'on apprécie la parole, c'est pour cela qu'on la mémorise, c'est pour cela qu'on la sert dans notre cœur. C'est pour cela qu'on est des hommes et des femmes, pas seulement des hommes et des femmes de la croix de Christ, mais de la parole de Dieu, de prière. Alléluia. Seigneur, que ce matin, Seigneur, nous puissions prendre conscience. Que tu bénisses, Seigneur, cette rencontre qui a lieu à Damaï-le-Lys, Seigneur. Ces milliers de personnes qui sont rassemblées depuis deux jours soient vraiment inspirées, encouragées à témoigner, Seigneur, sans honte, à témoigner, Seigneur, avec hardiesse, à témoigner, Seigneur, et chacun de nous aussi, à voir, Seigneur, oh Dieu, cette parole, Seigneur, qui jaillira du fond de notre cœur, cette parole de vie, Seigneur, dont le monde a besoin d'entendre. Au nom de Jésus-Christ, et nous voulons prendre un moment, Seigneur, pour prier pour nos frères et sœurs dans l'Église persécutée, en Algérie, en Chine en particulier. Ce matin, au nom de Jésus, je vous invite à vous tourner les uns vers les autres et faire des petits groupes de 3-4 personnes. Et nous allons prier quelques instants, passer un moment vraiment à dire, Seigneur, viens visite-les, réconforte-les, fortifie-les, Seigneur, au nom de Jésus. En nous basant sur ces passages que nous avons lus ce matin ensemble, que le Seigneur nous inspire dans nos prières, que le Seigneur vient vraiment donc nous donner un élan au fond de notre cœur, cela nous concerne. Cela nous concerne. C'est nos frères et sœurs. C'est l'Église de Jésus-Christ dont lui, il est la tête. Et nous sommes ses membres. Chut, chut, chut. On va vraiment prendre un moment, s'il vous plaît. Prenez un moment de prier dans des petits cercles. Prenez un moment de vraiment intercéder devant le Seigneur. Et que le Seigneur visite nos frères et sœurs, que le Seigneur les console, les fortifie et que l'Église se démultiplie partout. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia.